Bonjour à vous, bienvenue dans ce podcast PIB. Aujourd'hui les amis, on a un invité spécial, donc on a l'occasion d'interviewer un de nos membres du club, un de nos membres du club qui est allé loin, donc qui a rejoint le club il y a quelques... C'est combien de temps déjà ?
Il y a 2 ans et 3 mois, ça fait précisément.
Deux ans, trois mois, voilà,
j'ai tout compté. Ouais.
Donc c'est Jesse qui est ici. Et donc Jesse a un parcours, il a aussi un mindset incroyable qu'il a développé et qu'il a aussi. Donc l'objectif de cette interview, c'est de pouvoir connaître un peu d'où te vient ce mindset, comment est-ce que tu as surmonté les challenges, qu'est-ce que tu as investi, quelle est un peu aussi ta vision dans le futur. Et évidemment, l'objectif, c'est de pouvoir vous inspirer. Donc, petit rappel, si vous aimez tous ces partages, tous ces intervenants qui viennent, n'hésitez pas à mettre des likes sur les podcasts, des commentaires, à partager ça, envoyez-nous de la force. Et pour commencer, on va commencer par le début. Jesse, est-ce que tu peux te présenter ? Qui es-tu ? D'où viens-tu ? Qu'est-ce qui t'amène ici dans l'immobilier ?
Je m'appelle Jesse, j'ai 35 ans, donc j'ai rejoint le club il y a 2 ans et 3 mois, comme je viens de le dire. Et depuis, je peux dire que ma vie a littéralement changé.
Ok. De quelle région tu viens et qu'est-ce que tu fais dans la vie ou qu'est-ce que tu as fait dans la vie ?
Voilà, alors justement, par rapport au fait, quand je dis que ma vie a littéralement changé, c'est par rapport à ça. Donc, j'habitais dans la province de Liège. Là, à l'heure actuelle, j'habite tout près de Dinan, donc justement à proximité de mes investissements. Et j'étais employé avec un horaire assez lourd, assez conséquent aussi sur ma vie privée. Il y avait des répercussions quand même. Quand je revenais, j'avais une charge mentale, etc., assez nuisible à mon environnement familial. Et ma compagne, qui est Céline, qui a investi avec moi, qui est rentrée dans le club également, elle travaillait 6 jours semaine, elle travaillait le dimanche, donc c'était assez pénible, on va dire. Et là, à l'heure actuelle, je ne suis plus employé, donc je m'occupe de mes investissements. Et Céline, elle travaille juste le lundi et le mardi. Uniquement parce qu'elle aime bien le travail, etc. Elle se sent bien, mais elle pourrait aussi arrêter.
Histoire assez incroyable parce que nous, en moyenne, les gens prennent entre 3 à 5 ans pour atteindre leur liberté financière. Toi, je connais un peu ton mindset, tu es assez fonceur, tu es assez droit au but, on ne tourne pas autour du pot. Quand tu dis quelque chose, c'est déjà fait en fait. Le temps que tu le dis, c'est déjà trop tard en fait, entre guillemets. Et qu'est-ce qui, pour toi, était le plus grand accélérateur ? Qu'est-ce qui a fait que tu allais vite ?
Le plus grand accélérateur, pas que j'étais vite parce que la mise en place a pris quand même un certain nombre de temps, je veux dire. Mais pour moi, la rapidité dans l'exécution et de tout en général, ça a été de faire un vision board. Super important à mon sens. En tout cas, pour moi, ça a super bien fonctionné. Donc, faire un vision board avec exactement ce que je veux, d'accord, mettre les choses sur la table, réfléchir longuement, prendre le plus de temps possible sur ce vision board. Et ensuite, des objectifs court terme, moyen terme et très très court terme. Okay. Ça m'a permis vraiment d'évoluer. Donc, avant d'entrer dans le club, j'avais un objectif spécifique avec des chiffres. C'était très, très précis. Et alors, je faisais ça à chaque fois, mois par mois ou même année par année. Et à chaque fois, j'ai dépassé les objectifs, mais vraiment de beaucoup. Donc, ça, c'était un accélérateur.
Okay.
Ça.
OK. Donc, ton vision board, juste en deux mots, qu'est-ce que c'est ? Ce sont des images, des rêves que tu as de manière, genre les 5 prochaines années ?
Alors, donc, d'abord, au début, je ne m'intéressais pas trop à ça. Donc, ce que j'ai fait des objectifs. Je pensais que c'était une vision, mais je me trompais. C'était des objectifs. Okay. Donc, ça, c'était plus ou moins il y a 2 ans. Donc, j'avais dessiné deux locations courte durée.
OK.
Avec boisé autour, etc. J'aimais dessiner, donc j'avais fait ça. J'avais noté le cash flow que je voulais percevoir. Ça, c'était l'idée. Et un délai. J'avais un délai. D'abord, j'ai fait ça dans un premier temps. Là, maintenant, mon vision board, il a évolué. Donc, ça, c'était des objectifs. Maintenant, un vision board, pour moi, c'est vraiment la vision. Donc, ça, c'est vraiment le rêve. Donc, c'est vraiment, je gagne l'€1 million du jour au lendemain. OK, donc j'ai accès à tout. J'ai l'argent. Je fais quoi ? Ça, c'est ma vision. Ensuite, de ça, en découlent les objectifs. 5 ans, 3 ans, 2 ans, 1 an. Et les sous-objectifs pour arriver aux objectifs. Ça, c'est comme ça que je fonctionne.
Top, top. Et donc, tu as fait ça il y a 2 ans, à peu près 2 ans et 3 mois.
Ouais.
Est-ce qu'aujourd'hui, ce vision board et ses objectifs, par rapport aux résultats que tu as obtenus, qui sont au-dessus de tes attentes, est-ce que tu l'as changé ou il reste toujours...
Alors, vu que j'ai dépassé les objectifs d'il y a 2 ans, j'ai...
T'as bâclé.
J'ai bâclé. Et vu que j'ai fait beaucoup de déménagements entre-temps, on pourra peut-être en discuter après, je suis retombé justement sur cette image et j'ai fait « Waouh !» J'ai regardé, j'ai montré à Céline, j'ai dit... On a tout dépassé là en fait, c'est x2, donc ça c'était assez sympa de retomber dessus. Et sinon, non, pour le reste, les vision boards de maintenant, j'adapte de temps en temps. J'adapte parce qu'il n'y a rien à faire, on évolue aussi dans ce qu'on veut dans la vie. Et j'ai 5 grands tableaux.
5, ouais.
J'ai 5 grands, grands tableaux de chez Action, quoi, je veux dire. Ouais. Hein. Un avec vraiment la vision.
C'est des tableaux de liège ou c'est des tableaux...
Non, c'est avec des feutres. Okay. Comme ça, on peut venir adapter, etc. Je trouve ça intéressant. Et j'ai vraiment la vision. Et ensuite, j'ai les objectifs pour 10 ans, 5 ans, 3 ans. Et alors, pour l'année, j'ai mois par mois aussi.
Ok.
Mois par mois. Après, chaque fois, je coche.
Et quoi, donc c'est si on va dans ta chambre, il y a tout un mur qui est rempli de tout ça.
Ouais, c'est ça.
Donc, ça veut dire avant de dormir, tu le vois.
Ouais. Ah oui, donc ça, c'est l'idée. Ouais. Donc... L'idée, ce n'est pas que d'avoir un vision board avec des objectifs et puis mettre ça au placard, non. L'idée, c'est que toutes ces idées qui nous ont pris du temps quand même, c'est une grande réflexion, etc., c'est de faire en sorte que tout passe dans son subconscient, tout doucement. Doucement mais sûrement. Et pour arriver à faire ça, il faut lire tous les jours, tous les jours. Donc 2 fois par jour, le matin, quand je me réveille, vu que c'est dans ma chambre, et avant d'aller dormir. Comme ça, avant d'aller dormir, plutôt que d'être sur mon téléphone et regarder, je ne sais pas, sur Facebook ou sur TikTok des vidéos, je regarde ma vision. Au moins, quand je dors, je rêve de choses intéressantes. Et, pour moi, en tout cas, c'est comme ça que je fais. Et ça m'a toujours bien réussi jusqu'à présent.
Ok, super. Ben, merci pour les conseils. Je trouve que c'est un super conseil. Pour ma part, j'ai eu l'occasion aussi d'expérimenter ça il y a quand même 8 ans, je pense. J'ai revu ce vision board il n'y a pas si longtemps que ça. Et j'ai vu que 80% a été réalisé, même plus.
Ah oui, voilà.
Et j'avais mis des images de villes, de pays que je ne connaissais même pas vraiment à l'époque et que j'ai visité pour certains plusieurs fois. Et pareil au niveau des sociétés. Donc voilà, moi je suis pro, on va dire, vision board. Ça fonctionne super bien. Quand je mets des émotions, je faisais une sorte de méditation, le cœur sur la main, etc., avant de dormir. Et je suis dans une phase, exactement la même phase, où je suis en train de revoir les 5 prochaines années. Donc, top. Merci vraiment pour tes astuces. Je ne m'attendais pas à ce que tu parles de ça, mais
c'est avec plaisir.
Super intéressant. Donc ça, c'est aujourd'hui. Est-ce que tu peux, on a l'habitude toujours dans le podcast PIB de revenir un peu sur l'enfance, l'adolescence de la personne, donc d'où te vient tous ces tips, parce que là ce qui est intéressant, c'est de savoir un peu comment est-ce que ça s'est construit, est-ce que tu as eu des déclics dans ton enfance, donc est-ce que tu peux nous parler un peu de ton enfance, alors au niveau de l'éducation à l'école, comment t'étais comme enfant, est-ce que tu étais sage comme une image comme tout le monde, ou tu as été un peu différent, tu peux nous en dire un peu plus?
Oui, bien sûr. Donc, sage, non. Différent, oui. Donc, j'étais assez différent et je parle de ça avec beaucoup de recul parce que c'est à plus ou moins il y a 3-4 ans que je réfléchis un petit peu à mon passé, à mon enfance. Ça permet d'évoluer aussi pour la suite. Et donc, du coup, j'étais fort différent des autres. Et les autres, ils l'ont remarqué. Ils l'ont remarqué. Et donc, du coup, j'étais un peu mis à l'écart. Il y avait beaucoup de moqueries, etc. Et j'ai pas eu le choix. Pour être remarqué, pour être comme les autres, etc., je devais faire plus. Je devais faire plus. Et donc, j'ai dû me battre 10 fois plus quand, par exemple, il y avait un challenge sportif ou autre chose. Je voulais montrer que j'étais le meilleur. Donc, à chaque fois que je faisais quelque chose ou que j'avais un petit oui, une petite passion, je me donnais à fond. Déjà quand j'étais petit, déjà quand j'avais 5 ans, c'était déjà comme ça.
Okay.
Donc, j'avais déjà, on peut dire que j'avais déjà un mindset de quelqu'un qui n'abandonne pas et qui travaille peut-être même 4-5 fois plus que les autres pour arriver à des petits objectifs. Mais j'avais déjà ça en moi.
Okay.
Mais à contrario, j'essaie aussi de me faire remarquer, mais dans le mauvais sens du terme. Donc, passage, etc. Pendant l'adolescence, beaucoup de bêtises, également. Mes parents ont un petit peu subi avec ça. Donc, ça, c'était un petit peu le parcours que j'ai eu...
Quand tu étais jeune, est-ce que tu as eu, t'avais un rêve d'enfance?
Pas forcément.
Pas forcément. Okay.
J'avais pas de rêve. Mais par contre, je pense que quand on est petit, on se visualise grand. Et je me voyais comme quelqu'un avec beaucoup d'argent, je ne sais pas pourquoi.
OK.
Je me voyais quelqu'un avec une cravate, etc., super bien habillé, alors qu'en mes 20 ans, mes 30 ans, pas du tout. Je flambais tout mon argent. Et ça, c'est vraiment et cette image et cette pensée, elle est très, très limpide dans
Ouais.
mon mental,
C'est-à-dire quand
vraiment.
tu vois un film et tu vois un gars en costard, il t'inspire par exemple?
Non, pas
Ou pas
forcément. Non,
forcément,
c'était
ouais.
même pas du tout ça.
OK.
C'était juste quand je me voyais grand, je me voyais comme ça.
OK.
Sans forcément un métier ou autre, sans forcément un patrimoine spécifique. Je voyais juste ça.
Avec beaucoup d'argent quand tu seras grand.
Ouais.
OK. Et bah, justement, ça me permet de rebondir. Toi, dans ton enfance, que ça soit au niveau familial ou au niveau, je sais pas moi, de l'école ou en général, est-ce que tu as quelle était tes croyances vis-à-vis de l'argent?
J'ai pas vraiment prêté beaucoup d'attention. Pourquoi? Parce que durant mon enfance et mon adolescence, on va dire que j'étais dans une famille assez aisée, mes parents avaient de l'argent, ma grand-mère aussi. Ma grand-mère, elle a beaucoup investi dans l'immobilier, donc
OK.
elle avait beaucoup de résidences secondaires. Donc on partait en Espagne, un peu à gauche, à droite. Donc je veux dire, ça m'a jamais vraiment traversé l'esprit parce que, comme toute personne un petit peu aisée, eh bien, l'argent viendra quand même par la suite.
Ouais.
Sauf que par la suite, ça s'est pas passé comme ça parce qu'ils ont, avec l'inflation, etc., ils ont eu un peu difficile. Et là maintenant, ils ont encore du patrimoine, mais c'est un peu plus compliqué.
OK.
Ouais.
Donc vie relativement aisée, donc tu étais un peu différent des autres personnes. Est-ce qu'il y a eu un moment donné dans ton parcours, que ce soit donc plus récemment ou un peu plus tard, où tu as eu un déclic, quelque chose, une révélation, une prise de conscience par rapport à comment les choses fonctionnent, par rapport à si je continue à aller dans cette direction, mais j'atteindrai pas mes objectifs, par exemple. Est-ce que quelque chose t'a donné le déclic, une vidéo?
Aucune vidéo, rien du tout. En fait, j'ai eu vraiment le déclic parce que justement, je n'avais pas de but. J'avais rien à ce niveau-là. Mais j'avais tout le reste.
Vers quel âge
Je
là? Là,
m'explique.
tu me
30
parles de
ans, 30
30 ans,
ans.
ok.
31 ans, 31 ans. Je m'explique. Donc, j'avais coché toutes les cases, en fait. J'ai un bon travail qui me rapporte beaucoup. J'ai la sécurité de l'emploi. Céline, un bon travail, sécurité de l'emploi. On a une belle résidence principale. Super bien situé. C'est bon. On a deux beaux enfants. On a tout ce qu'il faut. Donc qu'est-ce qu'on peut attendre encore de la vie, concrètement? J'ai un petit peu d'argent avec ce que je perçois comme salaire. Je peux partir en vacances à gauche, à droite. C'est tout. Donc j'attends la pension. Je suis pensionné. Et puis c'est tout. Et puis c'est la mort. C'est un peu dur ce que je dis, mais en fait c'est comme ça que moi je l'ai visualisé en tout cas. Et c'était vraiment, j'étais dans mon lit, chez moi, j'ai regardé le plafond. Et j'ai vraiment les yeux ouverts, je me suis dit, non, c'est pas possible, je peux pas continuer comme ça, en fait, je dois faire quelque chose. Je peux plus. Et là, c'était le déclic. Et j'ai eu ce déclic parce que, avec le travail, etc., métro, boulot, dodo, j'avais pas eu le temps vraiment de me centrer sur moi-même. Et peut-être qu'avoir passé les 30 ans, peut-être qu'on pense peut-être aussi un peu à soi.
Ouais.
Et c'est là où je me suis dit, waouh, il y a un problème là. Après, il y en a qui le supportent très bien, il y en a qui vivent très bien comme ça. Mais moi, ça me convenait pas, ça me convenait plus. J'en ai parlé avec Céline, c'était pareil. Et donc là, on a commencé un petit peu à cogiter.
À réfléchir,
Voilà.
à chercher des choses, à lire des livres peut-être ou
Oui,
ouais.
donc j'ai lu L'homme le plus riche de Babylone. Ça, c'était un petit déclic aussi. En parallèle, c'était bien un bon livre. Et après, je me suis dit, bon, ok, d'accord, ici, il me faut absolument que je perçoive de l'argent supplémentaire
OK.
pour pouvoir justement un jour arrêter ce travail qui ne me correspondait plus trop.
OK. Et comment tu as fait la transition vers l'immobilier, puisqu'il y a d'autres leviers d'enrichissement, hein,
C'est ça,
l'entrepreneuriat, le
effectivement.
e-commerce, le MLM, la bourse.
Ouais.
Et là, l'immobilier, est-ce que ça vient de ta grand-mère ou
Pas
donc,
du
ouais,
tout, pas
OK.
du tout. Même si je pense qu'elle m'a transmis justement cette passion, c'est vraiment une passion à l'heure actuelle. Ça m'est venu tout simplement parce que Céline m'a tagué sur une de vos vidéos, sur Facebook. C'est venu comme ça en fait, parce que j'avais pas pensé à l'IMO. J'avais pensé à plein de choses, je m'étais même dit, ok, c'est bon, je vais faire un travail sur le côté. J'avais des petits, comment dire, je transformais des vélos en vélos électriques. Donc je m'étais dit, je vais lancer un business, il y a quelque chose à faire. Puis après, je me suis rendu compte qu'il y avait des licences, etc., il y avait des accès à la profession. Je me suis dit, non, ça prend trop de temps, je ne vais pas être libre financièrement avec ça. Il y avait eu d'autres phases, d'autres passages aussi, mais finalement, quand elle m'a tagué sur la vidéo, je me suis dit, Ouais, ok, je vais la suivre, mais après, bon, l'immobilier, il faut avoir de l'argent pour investir en immobilier. J'ai pas d'argent, moi. Ok, j'ai une résidence principale. Ok, j'avais juste ça comme patrimoine. Mais ok, j'avais quoi d'autre? J'avais 3000 euros sur le compte. Compte épargne des enfants, d'ailleurs. Mais c'est tout. Puis j'ai suivi la petite, c'était une petite formation.
C'était un webinaire.
Et là, je me suis dit, ouais, pourquoi pas, en fait, c'est possible. C'est possible. Donc là, j'ai suivi les 5-day challenge, c'est ça. Location courte durée. J'ai tout suivi, j'ai tout noté. Et là, j'ai eu le déclic, je me suis dit, non, mais c'est ça qu'il faut faire. C'est ça. Florent, il expliquait qu'avec un bien, il arrive à générer 1000 euros de cash flow. Ouais. Il y en a plusieurs. Je lui ai dit, Céline, regarde, on fait ça. On en achète 2-3 et ça remplace mon salaire. Et puis, on continue, tout simplement. Donc, c'est ce qu'on a fait.
Et donc, vous avez rejoint le club à ce moment-là. Directement, donc c'est l'histoire de Florent qui t'a inspiré.
Ouais.
Et vous êtes dit, ok, c'est courte durée d'office.
Oui.
Ok. Et donc, est-ce que tu peux nous parler un peu de ce premier achat? Comment ça s'est passé? Est-ce que vous avez eu facile? Il y avait des travaux?
C'est ça. Bah, d'ailleurs, enfin, ce qui n'a pas été facile, surtout, c'était le avant l'achat du bien en lui-même, parce qu'on a dû faire des sacrifices, qu'on n'a pas d'argent. Et nous, l'idée, c'était vraiment de remplacer directement le salaire. Donc, ce qu'on a fait, c'est qu'on a vendu notre résidence principale pour justement pouvoir lancer plusieurs estates en même temps. C'est ça qui a été surtout le plus compliqué, pas les travaux, etc. Parce que ça, au final, on a pu gérer. Mais ça a été de passer ce cap-là. Dans ma tête, j'avais fait le calcul et je m'étais dit, OK, si je veux 2 à 3 LCD, il me faut 100 000 euros. Il me faut absolument 100 000 euros. Donc, je le note, 100 000 euros sur mon papier. Ok, je fais comment maintenant pour avoir 100 000 euros? Et j'ai pas. J'ai 3 000 euros, ma famille, ils ont plus d'argent de toute façon. Donc, je réfléchis. Et puis, je vois ma maison et je me dis, ils sont peut-être là en fait, les 100 000 euros. Ils sont peut-être là. Donc, j'ai fait une étude de marché et c'était en pleine période Covid. Et je vois des maisons qui sont pas, franchement, c'est pas presque comme la mienne, pas forcément aussi bien située, qui étaient vendues à des très très bons prix. Elle s'était vendue à 270, 300 000 euros. Je regarde mon tableau d'amortissement, j'avais fait le crédit à 1 an et demi, et je vois 205 000 euros qui me restent à payer. Je me dis, c'est possible. On appelle un agent immobilier qui a vendu un bien que j'avais vendu à l'époque. Donc il regarde, il dit non, tu ne vendras jamais à 270, ça ne passera pas. Et alors finalement, on réfléchit, on se dit, ouais non, ça va être compliqué. Donc on a fait quoi? Là, c'était vraiment, c'est pour ça que je parle de ça, c'est vraiment les challenges, c'était vraiment la base. Hein. On s'est dit, bon ok, on ne va pas réussir à vendre 300 000. 270, on ne va avoir que 70 000 euros dans la poche. Pour moi, ce n'était pas assez pour être libre. Donc, on va faire quoi? On va vendre la voiture qu'on vient d'acheter. On avait eu un bon prix, donc on pensait pouvoir récupérer 2 000. On la vend, on récupère 2 000. On prend les 3 000 euros sur le compte épargne des enfants. Je rassure tout le monde, ouais. J'ai remis l'argent après. Ça fait 5 000. Avec les 5 000 euros, on a fait du home staging dans toute la maison. On a mis des plantes, on a refait le parquet, on a fait du home staging sur la cuisine. On a appelé à nouveau l'agent immobilier.
Donc home staging, juste pour expliquer aux personnes qui nous regardent.
C'est en fait rénover, donc garder ce qui est déjà en place et embellir pour donner un côté un peu plus contemporain. Okay. Pardon.
Donc décoration, meubles.
Décoration, meubles, voilà, faire des fresques, etc. sur les murs.
Okay.
C'est ce qu'on a fait. Peu d'argent, mais amener une grosse plus-value. Et avec 5 000 euros, du coup, lui, il est revenu, il a dit « Ouais, c'est pas mal, il a fait les photos, etc. » Mais bon, faut pas rêver, si t'as 280, c'est déjà bien. Mais moi, le problème, c'est que je voulais 100. Et j'avais noté 100 sur mon papier.
T'as vendu la voiture.
Voilà, je lui dis « Écoute, non, moi, il me faut… Tu dois vendre à 300. » « Ouais, je vais essayer. » Soit, vendu en une journée, sans clause suspensive, 320.
Une visite ?
Une visite.
Okay.
Une visite, 320, coup de cœur direct. Et le lendemain, ils ont dû enlever l'annonce parce qu'ils se faisaient harceler d'appels, etc. Donc ça, c'était déjà la première réussite. Et je le stipule ici parce que je trouve que c'est très important. Parce qu'en fait, parce que je l'avais noté sur mon vision board et parce que j'étais déterminé à avoir cette somme-là, eh bien, j'ai réussi à l'avoir. Que si je ne l'avais pas noté, je n'aurais pas eu, j'aurais eu 70. Et grâce à ces 100 000-là, j'étais bon pour commencer. Donc j'ai fait quoi? Je téléphone à Florent. J'ai pris un rendez-vous, un call, et je suis rentré dans le club.
C'est intéressant ton feedback parce que c'est une question que beaucoup se posent ici. Quand on a une résidence principale, est-ce qu'il faut la vendre ou est-ce qu'il faut la garder, la mettre en garantie? Donc toi, tu as eu une vision claire, tu as fait ce qu'il faut pour arriver aux chiffres que tu voulais avoir. Et donc cette somme t'a permis d'acheter... donc ça a été quoi la suite des opérations? Donc tu as acheté ta
première... La suite des opérations, donc on a perçu l'argent en janvier, oui. Et la suite des opérations, donc en avril, donc à la formation avec le club. En avril, une fois qu'on était bien formé, bien accompagné, j'ai eu une offre acceptée pour la première LCD. Donc là, offre très, très, très agressive. C'était en plein Covid. C'était vraiment fou, les prix qui s'envolaient. Je vois la maison, elle passe, pas sur l'immobile, mais sur le site de l'agence. Je reçois une notification, je regarde, je fais « Waouh, celle-là, elle va partir directement. » Donc je téléphone. L'agent immobilier, on va croire. J'ai dit, ça ne va pas le faire. Elle va me passer sous le nez. Donc, j'ai téléphoné à l'urbanisme pour voir si c'était en ordre. C'est en ordre. Je fonce là-bas. Il y avait l'adresse. Je regarde le bien. Je regarde un petit peu le toit. Je saute un petit peu au-dessus. Je regarde, c'est bon. Je fonce à l'annonce. Je dépose une offre sans clause suspensive.
Donc, tu n'as pas visité à l'intérieur? Non. Ok, juste de l'extérieur. Okay.
Ouais, et il y avait une visite virtuelle quand même, je précise. Une visite virtuelle quand même. Sinon, je ne l'aurais pas fait. J'ai déposé l'offre sans clause.
Donc, tu as fait un papier, tu as signé et tu es allé à l'agence et tu as donné le...
Ouais. J'avais pas le choix, sinon ça partait.
Ouais, ouais, ok.
Et je l'ai eu.
Ouais, et donc, il y avait les capacités derrière, les banques, vous suivez, tout ça.
J'avais en amont, évidemment, j'ai pas fait ça, j'ai pas fait le cow-boy. En amont, quand même, j'ai vérifié ma capacité d'emprunt, j'avais les liquidités, etc. Vu que j'avais quand même les 100K, donc je savais ce que je faisais par rapport à ça. Le but ici, c'était quand même d'avoir une quantité de 100 que j'ai eue au passage. Et donc voilà, c'est vrai que c'était un peu osé, parce que pour le même prix, il y aurait pu avoir des soucis à l'intérieur, mais finalement, ça a été.
Ok, super. Tu peux nous dire, le parler bien. Donc, je sais qu'on a déjà fait une vidéo ensemble.
Oui, on a
sur
fait,
place.
C'était là-bas, oui.
Sur place, dans ton bien. Donc, d'ailleurs, si vous n'avez pas regardé cette vidéo, regardez sur la chaîne YouTube ou sur le compte Instagram avec ton interview. Comme ça, vous pourrez bien voir le bien et ce que tu en as fait en détail. Mais juste pour résumer les chiffres, est-ce que tu peux nous dire alors, le montant du bien, le montant des travaux et... le cash flow, du coup.
Donc, j'ai acheté le bien à 219 000 euros. Il était affiché... 228, je pense. Donc, toute petite négociation, mais je ne pouvais pas trop non plus, je vais faire attention. Les travaux, seulement 12K de mémoire, 10 ou 12K. Vraiment beaucoup d'aménagement extérieur. À l'intérieur, il n'y avait pas grand-chose à part coup de peinture, donc ça, on avait de la chance. Sinon, quantité de 100 par rapport à la banque, 100 l'a eu.
C'est toi qui as fait les travaux hein?
Alors, non. Non. Pour celui-là, c'était l'extérieur et je suis passé avec un ami. Et moi, je fais un petit peu quand même aussi, mais c'est un ami qui est entrepreneur qui a fait une grosse partie.
Okay.
Petite anecdote par rapport à ça, justement. Donc, on avait l'offre acceptée en avril. En mai, avec le compromis, etc., j'apprends que c'est un divorce. C'est des personnes qui habitent très loin. Et je me dis, je vais quand même leur téléphoner pour voir si je ne peux pas avoir les clés avant. Je leur téléphone, ils me disent « Écoutez, oui, c'est possible. » Je leur dis « Si vous voulez, je vous donne un petit quelque chose. »« Non, non, c'est bon. » Je me dis « Ok, nickel. »« Ça vous dérange si je m'installe, etc. »« Non, non, allez-y, allez-y. » Bon, après, l'agence s'en a un petit peu mêlé. Ils m'ont fait signer un papier comme quoi je ne pouvais pas faire des travaux avant de signer les actes. Des travaux à l'intérieur. Il était mis. J'ai signé le papier. J'ai pas été m'installer. Par contre, j'ai fait les travaux à l'extérieur. Donc... c'était un peu limite quand même, parce que pour le même prix, si l'agent immobilier passait alors que j'étais en plein travaux, surtout que c'était à l'extérieur, ça faisait du bruit, là ça aurait été problématique. J'ai pris les risques, ils sont pas passés, donc tant mieux pour moi. Ça m'a permis quoi? Ça m'a permis mai, juin de faire les travaux, juillet faire un petit peu l'intérieur, parce qu'on a signé les actes plus ou moins en juillet, et on a lancé au mois d'août.
Super.
Et vu qu'il y a toujours un temps de un mois entre le moment où on signe les actes et le moment où on paye à la banque, le premier... la première mensualité, eh bien, du coup, j'étais juste bon. Donc ça, c'était parfait.
Ok. Et donc, tu termines les travaux. Donc, c'est une courte durée.
Oui.
C'est ça. Comment se passe ce premier mois d'août?
Alors, il n'y a pas eu vraiment de pause parce que directement après, j'ai eu le suivant. J'ai fini les actes pour le suivant.
Ouais, ouais, mais je veux dire par rapport à la location.
Par rapport à la location en elle-même. Ça s'est bien passé. On a eu... après 3 jours, on a commencé à avoir les premières réservations. C'était la bonne saison. Et on a fait 20 nuits, 22 nuits. Et puis, ça s'est enchaîné sur ce rythme-là.
Et la mensualité crédit s'élève à combien?
1050.
Ouais. Et les loyers que vous percevez?
Alors, pas au début, mais nous, on demandait plus ou moins, ça dépend, hein.
Ouais,
On fait
en
varier
moyenne.
300 euros la nuit,
Ok.
20, 22 nuits.
Ok, ça va. Donc ici, 300 euros la nuit, on est dans du haut de gamme. Voilà,
Oui, bien sûr.
c'est pas juste une simple courte durée classique. Il y a vraiment du haut de gamme. Enfin, c'est
Oui,
vraiment
c'est...
nickel. C'est même super. Pour l'avoir vu, sinon, regardez, je vous dis, sur la chaîne YouTube ou quoi, le logement. Donc, est-ce qu'il y a eu, pour ce premier achat, des difficultés particulières à part ce que tu as dit ou
Non,
ça a
non,
été
la seule
relativement
difficulté,
fluide?
c'est vraiment un peu de se cacher avec l'agent immobilier, etc. Ça, c'était un peu tendu. Oh, sinon, au niveau de la difficulté, non, c'était le premier, donc c'était assez stressant quand même. On ne s'y connaît pas,
Ouais.
d'accord? On est un peu, on a le nez dedans, donc on est un peu, comment expliquer? On est un peu détaché de la réalité, en fait. On se dit, on se pose des questions, ça va marcher? Même si j'ai un bon mindset, je me disais, est-ce que ça va marcher ou pas? C'est compliqué. Je savais que j'allais avoir mes nuits. Mais peut-être pas forcément 20, 22. Dans ma tête, je me suis dit, bon, si j'ai 15, c'est déjà bien, ça me fera 1000 euros de cash flow, 1002, c'est bon. Et ça, c'était vraiment le plus. C'est vraiment au début, ça a duré une semaine ou deux. Et après, quand j'ai vu que les réservations s'enchaînaient, voilà, j'ai été soulagé. Et non, à part ça, ça a été.
Et donc tu as dit que tu as enchaîné directement
Oui, parce
pour le
qu'en fait, on a
deuxième.
signé. C'est ça. Donc, on a eu l'offre contre-signée en avril pour le premier. Et en mai. On a une offre contre-signée pour le deuxième. Donc on a enchaîné directement.
Ok.
Et celui-là, c'était aussi sans clause. Sans clause. Bon, on a été le voir quand
Ouais.
même. Si on a été le voir.
Et donc combien le prix, localisation, plus ou
Celui-là,
moins?
donc,
Ouais.
à proximité. Donc l'idée, c'était d'avoir des biens proches l'un de l'autre pour au niveau logistique que ce soit facile. Pourquoi? Parce que dans notre façon de faire, on ne voulait pas automatiser directement. On voulait être à proximité justement des locations courtes durées, pouvoir bien les gérer avant de les automatiser, avant de transmettre. On voulait pouvoir faire nous-mêmes. Ça, c'est comme ça qu'on a fonctionné. Donc c'était vraiment à proximité. Celui-là, on l'a acheté, petite négociation, il était à 120, on l'a eu à 110.
Ok, donc beaucoup moins cher, hein.
Voilà, tu
C'est plus
peux.
petit.
Oui, oui,
Ouais,
oui.
ouais.
C'est plus petit, c'est dans un domaine. Mais super bien situé avec une très belle vue, pas de vis-à-vis, donc c'était une très très bonne affaire à mon sens. Et celui-là, on avait une enveloppe travaux, j'ai plus de bêtises parce que j'ai injecté beaucoup dedans. Ah, enveloppe travaux de 20K.
Ok.
20K parce que sinon on était trop limite avec le reste à vivre. Donc j'ai dû calculer, les taux étaient en train de grimper fortement. J'ai dû calculer avec le reste à vivre, j'ai dû diminuer de 10 000 les travaux. On était sur 30, je passais à 20. Et puis c'est passé tout pile. À 15 euros près,
C'est ça.
à 15 euros près de mensualité, ça passait pas.
Parce que vous avez demandé deux crédits en même temps, plus ou moins?
On a
Ou...
séparé nos forces.
Ok, ça va.
Chacun un crédit pour avoir deux côtés de 100.
Ah ouais,
On
ok.
a fait ça.
Top, top, top. Super, superbe achat. Et celui-là, aujourd'hui, il cartonne aussi. Bon cash
Oui,
flow. Ouais.
c'est pareil, le même stat plus ou moins.
Ok.
Et lui, on l'a lancé 11 mois après. Parce que là, on a fait les travaux, on a fait tous les travaux. J'ai fait 95%.
Ok.
95% des travaux, donc on a gardé vraiment les murs, le plancher, le toit, c'est tout.
Ça va, ok, super. Si tu devais recommencer de zéro, est-ce que tu changerais quelque chose, améliorer quelque chose?
Non, non, parce que je veux dire, toutes les étapes que j'ai eues dans le passé m'ont permis d'avoir ce mindset aujourd'hui. À part commencer plus tôt, mais
Ouais.
si, commencer plus tôt, ça veut dire qu'il n'y aura pas eu le club. Donc, quelque part, je ne suis pas du genre à ressasser le passé, je préfère me focus et garder mon énergie pour le futur. Et pour le moment présent, pour moi, c'est plus important.
Ok. Pour les gens qui nous écoutent aujourd'hui, il y a quand même pas mal de débutants, j'imagine. Est-ce que tu aurais, on va dire, trois conseils, trois fameux conseils à partager pour quelqu'un qui se lance?
Déjà, première chose, comme on en a parlé longuement, vision board.
Ouais.
Super important, avoir un vision board. Bien prendre le temps de savoir ce qu'on veut. C'est pour moi la priorité. À partir de ce moment-là, bien travailler sur soi-même. Si jamais, petit conseil, vous n'arrivez pas justement à constituer ce vision board, l'idéal, c'est d'aller faire des petites promenades seul. Alors, si on habite à la campagne, c'est le top, mais si on habite en ville, pas grave, pas forcément le soir, mais le matin, alors tôt, quand tout le monde dort encore, aller se promener et se focus, se dire, ok, je vais me promener, j'essaie de penser à rien, mais mon subconscient le faire travailler sur cette vision. Ça, c'est l'idée. Donc ça, c'est le premier conseil que je donnerais. Le deuxième conseil que je donnerais, c'est avoir une certaine rigueur dans ce qu'on fait. Donc c'est bien beau d'avoir une vision, C'est bien beau d'avoir des objectifs, pardon, mais il faut vraiment s'y tenir et il faut vraiment avoir des routines spécifiques pour pouvoir arriver là où on veut arriver. Donc lire ce vision board, quand on dit « Ok, je vais le lire deux fois par jour », il faut le faire tous les jours. Il faut mettre ça en place, il faut mettre des routines en place. C'est très, très, très important, les routines, à mon sens, vraiment.
Ok, ok, super. Qu'est-ce qui change entre Jesse aujourd'hui et Jesse il y a 2 ans? Qu'est-ce qu'il y a de différent?
Oui, la grosse différence, c'est avant, j'étais pas focus sur le moment présent. Avant, je ruminais beaucoup, de par mon environnement, de par le travail, etc. J'étais centré sur, vraiment sur les autres et sur le passé. Maintenant, je suis centré sur l'avenir. J'attends pas de me retrouver sans rien faire pour me dire « Ok, je vais faire quoi ?» Non, j'anticipe. Quand j'ai eu le deuxième deal, quand il était fini, 2 mois avant de lancer la deuxième LCD, j'étais déjà en train d'anticiper par rapport aux autres achats.
Aux autres projets.
Ouais, okay. Direct, pour toujours être en mouvement.
D'accord.
Alors qu'avant, bah, je me laissais aller et je dépensais beaucoup mon argent aussi.
Ouais.
Je procrastinais beaucoup. Tout ça, en 2 ans, c'est vrai que ça a quand même évolué. Effectivement.
Donc on peut dire peut-être que, je ne sais pas si j'interprète, mais les achats que tu as fait, la concrétisation de tes projets a permis de renforcer un peu ton mindset.
Bien sûr.
Sur comment compléter ton temps, atteindre tes objectifs, augmenter ta confiance.
Oui, je ne gâche pas mon temps dans des choses inutiles, on va dire. J'essaie vraiment de focus, c'est peut-être un peu extrême, mais j'essaie de focus vers cette vision,
okay,
qui est à me sacrifier un petit peu là, à l'instant T.
Je ne sais pas si vous sentez, mais Jesse, il a vraiment beaucoup d'énergie, c'est assez droit. J'espère que vous arrivez à le ressentir dans ce podcast. On sent qu'il y a une force il y a une conviction, il y a aussi beaucoup de l'action. Et le mot focus, je pense que tu l'as répété beaucoup de fois. Et ça se sent à travers toi, que c'est précis, c'est focus et on tape dedans. Quoi.
Il faut taper dedans.
On tape dedans et on lâche rien. Quoi. Aujourd'hui, tu as réalisé 2 achats qui t'ont... Très bien. Vous avez délégué aujourd'hui ou...
Là, maintenant, c'est délégué à 100%.
C'est délégué à 100%.
Pour pouvoir justement enchaîner sur les autres projets qui sont en cours.
D'accord. Est-ce que tu veux nous parler un peu des
oui,
projets aujourd'hui? Parce que donc là, depuis que tu as rejoint le club, en un an, tu as fait 2 opérations.
Oui.
C'est ça? Ok. Et donc la suite?
Donc en un an, les 2 opérations, 3 mois avant de lancer le deuxième. Donc là, je me suis dit, bon, ok, je vais continuer la LCD, mais il faudrait passer en société. Il faudrait constituer une société immobilière. Donc, j'ai échangé beaucoup avec un membre du club. On a décidé de s'associer. Tout naturellement, ça s'est fait. On s'est associé. On a eu une offre acceptée pour un deal qu'on a ici, c'est en travaux, pour faire tout de la LCD, comme je viens de le dire. Mais bon, après, il y a eu quand même pas mal de challenges aussi parce qu'il me fallait 50K.
Okay.
Je ne les avais pas. Donc, grosse recherche, etc. J'ai réussi à faire une levée de fonds auprès de connaissances avec un taux très 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 élevé, mais au moins voilà, j'ai réussi à le faire. Et donc ça c'était la première étape, constitution de la société. Donc pendant que mon associé, lui, il s'occupait de la partie financement, il a d'ailleurs très très bien fait, moi je m'occupais de finaliser ma deuxième LCD, m'occupais de toute la partie travaux, la partie devis, etc. Mais en parallèle, je voulais pas que ça. Non seulement je voulais constituer une société, mais en plus de ça, je voulais un autre bien encore. Je voulais absolument un autre bien avant fin 2023. Et donc, je me dis, bon, ok, comment je vais faire pour enchaîner avec un autre bien? Là, j'ai plus d'argent. J'ai clairement plus d'argent. J'étais en train de vider tout ce que j'avais sur le deuxième. Et je réfléchis. Et je me dis, ok, ma belle-sœur. Ma belle-sœur, je savais qu'elle avait des liquidités. On avait déjà un petit peu discuté. Et de par notre premier succès, ça a suscité quand même un peu mal d'intérêt. Donc, les gens... Quelques personnes sont venues vers moi, etc. Mmh.
De ta famille?
Donc, pas que de ma famille, okay. Mais je préférerais faire avec ma famille par rapport à ça. Et je préférerais en faire profiter la famille. Je trouve ça plus logique. J'en ai discuté avec elle et elle m'a dit « Ok, d'accord. » Donc ici, on s'est dit « Bah ça va, moi je continue mes projets. Je ne sais pas quand ça se mettra, mais ça se mettra. Quand je trouve un deal, bah, je me positionne et on l'achète ensemble. Elle met les liquidités. Moi, je m'occupe de la partie travaux, etc., automatisation et le suivi court terme, moyen terme, long terme. Et puis, c'est bon. Elle dit, OK, go. Ça, c'est de côté. C'est de côté, pardon. Et fin août, j'ai mon voisin, donc là où j'ai acheté la deuxième LCD, qui me téléphone et qui me dit, ouais, il y a mes voisins ici, ils sont en train de déménager, ils sont en train de mettre les cartons, etc. Je dis, ils sont en train de vendre, je sais pas, à mon avis, ils vont vendre. Va les trouver, s'il te plaît, va les trouver. Et je vais faire une offre si jamais, mais demande-leur si je peux venir. Il va demander, etc. Ok, tu peux y aller. Je fonce là-bas. Je fais le tour. Et c'est juste à côté de l'autre. Hein, donc, ça, c'est sympa. Grosse négociation. Il voulait 150K. Je l'ai eu à 80K.
80K,
Je l'ai eu à
ok,
80K.
moitié prix quasiment.
Ouais, moitié prix. Grosse négo, 80K. Et donc, du coup, avec ma belle-sœur pour celui-là.
Comment s'est fait la négociation, tu peux nous dire
Très agressif sur la négociation. Donc, ce qu'il y a, c'est que je connaissais très très bien le marché.
C'était verbal ou c'est via des
Les
emails?
deux. Les deux. Donc, en fait, ce qu'il faut savoir, c'est qu'ils m'ont donné beaucoup d'éléments. Donc, déjà, ils étaient pressés. Ils étaient fort. On voyait que ça les pesait. C'était le bordel fini dans la maison. Il y avait des cartons partout. C'était un héritage. Le papa, il avait tout laissé comme ça. C'était vraiment le vrai bordel, vraiment. Et je voyais l'homme, il n'était pas manuel. Je l'ai vu directement. Il était avec du plâtre, en train d'essayer de reboucher les trous, mais ça n'allait pas du tout. C'était pesant pour eux. Donc ça, déjà, premier élément. Deuxième élément, donc oui, fort pressé. Et donc, du coup, je dis, bon, ok, vous voulez combien? Ils me disent 150 000. Je dis non, non, je suis désolé, c'est pas du tout les prix. Ah, mon téléphone a un agent immobilier, il dit que ça vaut 150 000. Bon, en gros, l'agent immobilier, il connaît pas du tout la région, il vient pas de là, c'était une connaissance. Je dis d'accord. Je dis écoutez, voilà, regardez, le bien qui est là-bas, c'est le mien. Et regardez ce que j'en ai fait, je l'ai acheté autant. Il est beaucoup plus grand, il y a autant de chambres, etc. Donc, je dis mathématiquement, le vôtre, il vaut moins. Donc j'argumente un petit peu comme ça et je dis écoutez pour prouver ma bonne foi j'avais fait une offre d'abord j'ai fait une offre à 75 donc là ils ont vraiment le coup de massue ils étaient là oh, non limite partez etc puis je suis revenu quand même pour argumenter et là j'aurais dit écoutez si vous passez via un agent immobilier déjà vous allez perdre beaucoup de temps ça va prendre des mois et des mois et au final il va le vendre 90 plus sa commission on va être à 85 donc voilà moi je fais un pas vers vous je vous fais une offre à 80 et vous arrêtez de reboucher les trous, vous arrêtez, vous laissez toutes les crasses, vous laissez tout en état. Et là, j'ai vraiment senti qu'ils s'étaient apaisés. Ils se sont vraiment dit, ok, c'est bon, ils ont discuté, on a signé, enfin pas on a signé, on a préparé l'offre. Et puis avant de signer, ils font, ouais, mais on va quand même attendre lundi que l'agent immobilier vienne. Là, je vais, non, et sur l'offre, j'ai mis valable 24 heures. C'était un samedi, parce que sinon, ça allait me passer sous le nez.
Avant que l'agent immobilier.
Ouais, avec la clause. Et ils ont signé 24 heures après. Donc là j'étais content là j'étais dit c'est bon puis bon voilà ça, je sais pas vraiment ça s'est mis bien ça a la valeur du bien bon ça vaut un petit peu plus mais c'était une bonne négo
Super,
bonne
bonne
négo
affaire.
donc là j'avais atteint les objectifs
Ce bien, c'est encore en cours, ça? Ou
ça j'ai signé les actes dans 2 semaines
Dans 2 semaines.
celui avec mon associé ça c'est en travaux
Ouais.
donc ça on a déjà signé les
Ça,
actes
c'est déjà acheté.
on va lancer plus ou moins dans 2 mois en société et mais c'est pas fini c'est
Ok,
pas fini
on est là pour ça.
un mois après mais ça c'est pas prévu du tout un mois après comme tous les lundis je fais une pause et je me concentre un petit peu sur Limoges je regarde le marché comment il évolue et je reçois une notification d'agence je vois un bien passé à 49 000 euros trois façades en briques hors domaine place de parking extérieur. Je fais, wow, c'est quoi ça? À mon avis, ils sont trompés. Le 4, ça devait être un 8. Impossible autrement. 38 mètres carrés, une chambre. Et donc, dans la région de Dinan, je fais, wow, c'est pas possible. Je téléphone directement. Peu importe, je sais pas comment j'allais faire, je m'en fous. Je téléphone. Il y avait déjà 4-5 personnes devant moi. Donc, c'était un lundi. Les rendez-vous pas avant le jeudi. Chance pour moi, c'était via la même agence avec laquelle j'avais acheté les 2 premiers biens. Donc, j'ai écouté, laissez-moi passer avant tout le monde. Faites-moi passer demain ou après-demain et je vous fais une offre directement. Ils m'ont fait passer avant tout le monde. Là, je fais le tour et je me dis, waouh, il n'y a pas tant de travaux que ça. Il y a 20 000 euros de travaux, c'est même pas dans son jus. Et c'était loué en classique. Et donc, du coup, j'ai quand même fait une offre, j'ai quand même négocié. J'ai fait une offre à, donc c'est 49, j'ai fait une offre à 46. Je dépose l'offre, je me dis, ça passera jamais. Ça passera jamais. Il y a des gens qui vont venir le jeudi, ils vont faire une offre à 80, même à 80, c'était rentable. Même en fixe, c'était rentable. Et du coup, le samedi, il me téléphone. En me disant, oui, allô, vous n'avez pas répondu à mon mail, ça t'a accepté. Je dis, quoi, accepté? Et en fait, c'était dans les indésirables, et ils ont accepté.
Allez,
Ouais, ils ont
félicitations.
accepté, merci. Et donc, du coup, ça, c'est pour en fixe.
Ça c'est
C'est pour louer en fixe.
en classique.
En classique,
Ok.
voilà, en fixe classique,
Ok, ça.
vu que de toute façon, le crédit, ça allait être 250 euros par mois,
Ouais.
je me suis dit, je peux louer 550, 600, bah, le calcul est vite fait.
Ok, super.
Ça fait un petit cash flow sans trop forcer.
Top, ça c'est région dinantaise aussi.
Ouais, oui. Yeah.
Ok, oui, ok, ça va. Waouh, incroyable. Bah, comme quoi, aujourd'hui, donc 2023-2024, on trouve toujours des biens à 49. Bah,
ouais,
de temps en temps, il y a des petites...
Oui, bien sûr, des pépites qui tombent. Hein.
Location classique. Ok, super, super. Et donc, aujourd'hui, bah, quoi, tu as pris la fibre un peu de l'immobilier. Qu'est-ce que tu... Comment tu vois l'avenir? Est-ce que tu as une grosse vision, des gros objectifs? Comment tu vois un peu les choses dans le futur?
Par rapport à l'immobilier? Ou en règle générale?
Ou de manière générale?
De manière générale. Donc là, l'immobilier, j'ai mis un bon coup. Et c'est une bonne chose. Je continue. Maintenant, je vais un petit peu tasser parce que ça fait comme beaucoup de projets en même temps. Et ça, je ne m'étais pas rendu compte. C'est bien de foncer, etc. Mais il y a quand même aussi tous les crédits qui s'accumulent sans forcément avoir des rentrées, dont en société avec des frais annexes qui sont quand même assez conséquents. Ça, j'avais pas tout... j'anticipe beaucoup, mais je n'avais pas anticipé jusque-là. Et c'est vrai que ça a été assez dur. Là pour l'instant voilà, c'est un peu c'est touchy, mais on va y arriver. Mais sinon là ici on va surtout se concentrer sur notre société immobilière qui est aussi une société de décoration intérieure, donc on va aller chez les particuliers etc. Pour justement faire ce qu'on a fait avec nos propres maisons.
Ouais.
Donc ça c'est un service qu'on va proposer, on va se focus vraiment là-dessus. Tout en continuant avec l'immobilier et pour continuer justement à avoir des revenus dans cette société de par cette activité pour enchaîner de plus belle.
Ok.
Donc ça c'est l'idée.
Ok, super. Alors, tu avais parlé de 30 ans, un âge charnière pour toi où tu t'es posé la question, tu étais allongé sur ton lit. Je crois que tu m'as dit que tu regardais le plafond. Et voilà. Et quoi, c'est la suite. Là, tu as commencé la suite en faisant des achats immobiliers. Et maintenant, j'ai envie de te poser la question. Et quoi, après ton immobilier? Est-ce qu'au final, est-ce que ça t'a rendu heureux? Est-ce qu'on peut dire que ça t'a rendu heureux, toutes ces opérations?
Ça m'a rendu heureux, ça m'a permis surtout de me libérer.
Okay.
Me libérer parce que avec mon ancien emploi, j'étais patron au-dessus de moi, etc. Je ne me sentais pas à ma place. Je me sentais vraiment... je ne pouvais pas... exprimer pleinement mon plein potentiel.
Limité. Ouais.
Oui, c'était fort limité. Tandis qu'ici, maintenant, j'adore bricoler, etc. Donc, je fais ce que j'aime. Donc, oui, dans une certaine mesure, je suis heureux et j'atteins mes objectifs. Et c'est vrai que par rapport à mon vision board, justement, tout était atteint. Je n'ai pas eu un seul non.
Okay.
J'ai que des oui. Donc, au final, qu'est-ce qui peut m'arrêter maintenant? Quelque part, c'est ce que je me dis. Donc, c'est pour ça que quand j'ai dit la 49 000 directement, ok, c'est bon, je fais une offre, on verra après comment je vais me faire financer. Et pas, ça, pas c'est... Oui, c'est plaisant, effectivement.
La liberté financière, c'est quoi pour toi?
La liberté financière. Alors, pour moi, la liberté financière, c'est tout simplement avoir assez d'argent pour ne pas forcément compter. Là, on perçoit quand même pas mal de cash flow, mais il n'y a rien à faire, il faut quand même compter. Et c'est libre aussi géographiquement, c'est important.
Okay.
Parce que là, on est quand même un peu bloqué sur une zone, même si, entendons-nous bien, on peut quand même voyager, etc. Mais être libre, c'est vraiment plus avoir aucun stress. Parce que là, il y a quand même une charge émotionnelle qui se met avec l'immobilier et tout. Il y a quand même des petits soucis toujours à gérer, c'est normal. Hein.
Mais c'est parce que tu as des projets en cours, ça.
Et parce que j'ai des projets en cours, mais même ceux qui sont déjà finis, qui sont lancés, il y a toujours des petites choses à régler. Tu es le premier à le savoir, évidemment. Être libre, vraiment libre. Pour moi, c'est pas que libre financièrement, il n'y a pas que ça. Il y a aussi d'autres choses sur le côté qui doivent se mettre.
Si tu avais un conseil à faire, à donner aux jeunes, ou au niveau de l'éducation, si tu avais une baguette magique et on te dit, je sais pas moi, tu discutes avec le ministre ou quelque chose qu'on mettrait dans l'école, est-ce qu'il y aurait quelque chose de particulier que tu trouves important, que les jeunes d'aujourd'hui doivent savoir, apprendre, connaître, être?
C'est vrai qu'on pourrait sensibiliser quand même à investisseur, c'est pas un métier. C'est pas du tout un métier, on n'apprend pas à être investisseur, on n'apprend pas à gérer des gens aussi. Parce que effectivement, on peut être amené à avoir des gens qui travaillent pour nous. Et ça, on apprend ça nulle part. À l'université, nulle part, rien du tout. Et ça, je pense qu'on devrait amener la chose quand même, amener la chose dans les écoles, d'une façon ou d'une autre. Je ne sais pas comment, mais je trouve ça intéressant.
Donc l'investissement immobilier, tu veux dire?
Pas que l'immobilier, l'investissement en règle générale. Parce qu'au final, il y a beaucoup de gens qui sont paumés, qui n'ont pas forcément qui n'ont pas assez d'argent. Alors que s'ils avaient investi un tout petit peu à l'âge de leurs 18 ans, bah, à 30 ans, ils auront déjà peut-être quelque chose. Pas forcément de l'immobilier.
Ouais.
Mais au moins, sensibiliser à cette facette de la vie qui pourrait être accessible à tout le monde, en fait, tout simplement. Ne serait-ce qu'une petite somme, un dixième de son salaire. Tu vois, moi, non, ici, la société et même l'enseignement en règle générale, c'est OK, on a quelque chose et directement il part. C'est ça en fait, c'est on consomme, on consomme, on consomme et on capitalise pas. Et ça, c'est un souci.
Ok, ça c'est
À mon sens, un
important.
gros problème.
Et tout le monde devrait avoir ça, selon toi, au moins quelque part, pendant leur éducation, entendre, être
Oui,
sensibilisé
au
par
moins qu'ils
rapport à
soient au
ça.
courant que c'est possible et que c'est pas réservé à une classe spécifique,
Ok.
que n'importe qui peut se permettre d'investir. Mais
Ok.
alors, c'est à lui à faire l'effort, c'est à lui à mettre de côté. Et pas à se dire, OK, je suis condamné, c'est impossible. C'est possible.
Super, bon, on arrive petit à petit à la fin ici de ce podcast. Merci encore beaucoup pour tous tes échanges, tout
Avec
ton
plaisir.
partage. Hein. J'espère que ça vous a inspiré. Encore de nouveau, envoyez de la force, mettez des commentaires, mettez des likes, les amis. On adore vraiment ça. Envoyez-nous des messages sur les réseaux sociaux, le Club Immobilier Belgique. Et on a deux dernières petites questions pour clôturer les podcasts. C'est un peu la tradition ici. Est-ce que tu aurais trois livres, des audios, des podcasts, des films trois choses que tu aimerais partager aux gens. Donc, tu as déjà parlé du livre Le plus riche de Babylone, c'est ça?
C'est
L'homme le plus
ça,
riche de
ouais.
Babylone. Donc, c'est peut-être déjà une chose que tu aimerais partager ou à
Ouais,
conseiller.
ce livre-là. Après, c'est vrai que pour ma part, le déclic s'est fait plus personnellement, mais ça, ou sinon, pas forcément des livres en règle générale. Enfin, Robert Kiyosaki, ça c'est la base en règle générale, ceux qui s'intéressent à
Donc,
l'investissement.
père riche, père
Père
pauvre,
riche, père
le
pauvre, exactement.
cadran, le cash flow, ok.
Ça, et sinon en termes de podcast, ben, le club, hein. Écoutez le club, hein,
PIB,
PIB,
vous êtes dessus,
hein.
yes.
Voilà, PIB. Et pourquoi pas aussi voir ce qui se fait à l'étranger,
Ok.
voir ce qui se fait, je veux parler hors podcast, etc. Je veux parler dans mon domaine, donc la location courte durée, pas hésiter à voir ce qui se fait ailleurs, pas hésiter à copier aussi, mais pas bêtement. Copier, mais amener sa touche personnelle et voir ce qui se fait aux États-Unis, c'est très inspirant.
Particulièrement aux États-Unis.
Pas que, en
Ok.
Angleterre, c'est bien aussi.
Ok.
Angleterre, États-Unis, il faut s'inspirer de ça parce qu'ils sont un step au-dessus de nous. Donc,
En termes de concept, de
en termes de
décoration, en
concept de
termes de... Ouais.
décoration, en termes de service client, en termes de tout, en fait, de photos, ils
Professionnalisme.
sont bien plus professionnalisés, en règle
Ok.
générale, hein, bien sûr.
Ok. Et toi, tu as l'intention d'emmener ça en Belgique?
Oui, bien, en tout cas, j'ai pas d'emmener ça en Belgique,
Ouais, mais
mais de
t'inspires.
faire ça à travers mes biens, bien sûr, oui,
Ok,
bien
ok.
sûr.
Ok, top, top. Super, merci. Et dernière question pour clôturer ici le podcast. Est-ce que tu aurais un dernier mot? Vraiment, tu as le micro à toi, un dernier conseil à partager aux gens qui nous écoutent ce soir. Alors, tu es libre, tu peux dire vraiment tout ce que tu veux. Le dernier mot est pour toi.
Pour le dernier mot, ça va être un peu plus. Certains vont me comprendre, d'autres, ça va peut-être pas forcément leur parler. Je vais en parler par rapport à la vision, etc. Si vous voulez atteindre tous ces fameux objectifs, toute cette vision, pourquoi je dis qu'il faut lire? Pourquoi je dis qu'il faut lire toute cette vision, etc. C'est pas que ça va entrer en soi comme ça. C'est pas comme ça que ça marche. En fait, ce qu'il y a, c'est qu'il faut bien scinder l'esprit en deux parties. Il y a le conscient, il y a le subconscient. Quand on va lire les objectifs, ça, c'est conscient. Ça rentre dans le conscient tous les jours, petit à petit. Mais ça ne se fait pas du jour au lendemain. Il faut des semaines, des mois. Ça rentre. Et tout doucement, du conscient, ça passe où? Au subconscient. Sauf que le subconscient, lui, il ne fait pas la différence entre ce qui est réel et ce qui n'est pas réel. Donc si, toi, ta vision, Marie, c'est d'avoir, je ne sais pas, 100 biens immobiliers, mais que c'est pas possible parce qu'il faut gagner autant, etc. Le subconscient, il s'en fout. Le subconscient, il croit qu'il a déjà 100 biens immobiliers. Donc, inconsciemment, on va commencer déjà à se comporter comme et faire certaines actions qui nous amèneront à cette vision. Ça, c'est le meilleur conseil que je peux donner. En tout cas, pour moi, c'est comme ça que j'ai fonctionné et ça marche pour l'instant.
Super conseil, mais je pense que la boucle est bouclée puisqu'on a commencé par ça et on termine par ça.
Super.
Donc merci encore à toi Jesse pour ce
Avec
podcast
plaisir,
et on
Maïri.
se retrouve à tous dans un prochain épisode. À bientôt les amis, bon investissement. Ciao.